monde là. Radio J.
Le 6-9, Hylène Aferradian. Radio J.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité, nous sommes le mercredi 1er janvier 2025, la nouvelle année 2025. Et en ce 1er janvier, il y a toujours 100 otages dans la bande de Gaza.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov et bonne année civile. Alors on va commencer par la politique et la crise surmontée de peu par la coalition de Benjamin Netanyahou.
Oui, et pour surmonter cette crise, le Premier ministre a dû quitter l'hôpital pendant quelques heures accompagné de son médecin personnel. Le député Boaz Bismuth Andei, pendant la période de Tshiva, a également été dépêché à la Knesset. Et malgré les obstacles, nous avons adopté aujourd'hui une législation budgétaire essentielle pour la sécurité et l'économie d'Israël, a écrit Benjamin Netanyahou dans un message publié immédiatement après le vote approuvé à 59 voix contre 58.
Et au sein de la coalition, les appels à limoger le ministre Ben-Gvir se multiplient.
Tout à fait, le député du Likoud, Eli Dalal, a écrit ce qu'il s'est passé aujourd'hui à la Knesset est une honte. Sortir le Premier ministre de son lit d'hôpital alors qu'il se remet d'une opération et faire venir un député endeuillé est un scandale. Il faut mettre fin à cette attitude puérile et limoger Ben-Gvir, c'est ce qu'a écrit ce député du Likoud. Et puis le ministre Ben-Gvir lui-même dénie toute responsabilité dans ce spectacle et accuse le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, d'avoir refusé de discuter avec lui, ce qui a, selon lui, obligé le Premier ministre à se déplacer. A noter que le député Alma Cohen du parti d'Itaman Ben-Gvir a désobéi et a voté avec la coalition.
Et tension sécuritaire à présent dans la bande de Gaza, le Hamas qui a tiré des roquettes en direction du sud d'Israël à minuit pile.
Oui, comme l'année dernière, Ilana, le Hamas choisit une manière dramatique de marquer le passage à la nouvelle année. Et peu après donc minuit, les sirènes d'alerte ont retenti à Netivot et dans les localités voisines. Et selon Tsahal, deux roquettes ont été tirées depuis le centre de la bande de Gaza. L'une a été interceptée et l'autre est tombée en zone ouverte. Peu de temps après, le colonel Avishai Adrei, le porte-parole de l'armée israélienne en arabe, a lancé un avertissement d'évacuation aux habitants de quatre blocs du camp de réfugiés d'Al-Burjir. Cet avertissement survient après de multiples rappels concernant l'utilisation de cette zone pour des tirs de roquettes.
Et Israël a annoncé avoir éliminé un commandant du Hamas impliqué dans l'attaque du 7 octobre contre le kibboutz Nir Oz.
Tout à fait, l'armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé Abed al-Hadi Sabah, qui est le commandant des forces d'élite du Hamas lors d'une frappe aérienne ciblée qui s'est déroulée sur Khan Younes. Ce responsable opérait depuis un abri situé dans une zone humanitaire. Il est accusé donc d'avoir dirigé l'infiltration dans le kibboutz Nir Oz lors des attaques du 7 octobre. Sabah aurait également aussi orchestré plusieurs attaques contre Tsahal depuis le début de la guerre, selon les autorités israélienne.
Et le Hamas, de son côté, pose de nouvelles conditions pour un accord sur les otages.
Selon un responsable interrogé par une chaîne saoudienne, l'Égypte et le Qatar intensifient leurs efforts pour relancer les négociations autour d'un cessez-le-feu et la libération des otages. Mais le Hamas se dit prêt à conclure un accord, mais il exige que le gouvernement de Benjamin Netanyahou revienne sur ses conditions. Il propose de libérer donc des otages vivants et morts, incluant des civils, des femmes et des femmes soldats, en échange de prisonniers palestiniens, d'une aide humanitaire à Gaza et surtout le retour des réfugiés à Gazaoui et surtout aussi le retrait progressif des forces israéliennes selon un calendrier défini.
Au Liban, un important arsenal d'armes a été découvert par Tsahal.
Tout à fait, l'armée israélienne a découvert un important dépôt d'armement dans la région de Saluki, au sud du Liban, lors d'une opération militaire. Cet entrepôt, dissimulé dans une zone stratégique, abritait un vaste arsenal. Parmi les armes, des lanceurs, des missiles, des charges explosives et plusieurs lance-missiles. Et puis les fouilles des bâtiments voisins ont aussi permis de mettre la main sur un arsenal supplémentaire. On y trouve des dizaines de fusils d'assaut, des Kalachnikov, des grenades grenades, des missiles de guidage électrique, des mines et même du matériel d'observation sophistiqué.
Et enfin, à l'occasion de la fin de l'année 2024, le Bureau central des statistiques, Olivier, a publié les chiffres de la démographie israélienne.
Et selon le Bureau central des statistiques, la population israélienne a dépassé les 10 millions d'habitants en 2024, mais environ 82 700 Israéliens ont quitté le pays, tandis que seulement 23 800 sont revenus, entraînant un déficit migratoire de près de 59 000 personnes. Le nombre d'immigrants aussi a diminué à 32 800 personnes contre 47 800 en 2023. Et puis en 2024, il a eu 181 000 naissances, dont 76% chez les mères juives et 51 400 décès, dont 1870 liés à la guerre.
Merci Olivier, à tout à l'heure. La météo de ce matin en France, le ciel est assez gris un peu partout, de l'Île-de-France aux Hauts-de-France. Les brouillards sont présents, le soleil en revanche brille en montagne et en Méditerranée. Côté température, il fera 8 degrés à Paris cet après-midi, 14 à Biarritz, 6 à Bourges et puis en Israël. Température assez stable, alternance de soleil et de nuages, 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv. Le max est avec 20 degrés.
Radio J. Le 6-9. Hélène Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Nous sommes à présent en ligne, en direct, avec Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Daniel.
Boker Tov, Irna.
Merci d'être avec nous Daniel et bonne année à vous, évidemment, en espérant toujours le retour pour cette année des otages dans la bande de Gaza. Alors ce matin, Daniel, vous souhaitiez réagir aux dernières accusations portées contre Israël par l'organisation Human Rights Watch, en soulignant la portée, je crois, de la terminologie utilisée cette fois.
Oui, en effet, à la veille des fêtes de fin d'année, cette organisation a publié un communiqué accusant Israël, je cite avec nausée, mais je cite ce communiqué, « Israël commet le crime d'extermination et des actes de génocide à Gaza ». Vous imaginez bien sûr que cette formule a fait des gros titres de toute la presse internationale qui s'est empressée de l'amplifier et de la diffuser à tout va. Quelques mots d'abord sur HWR, cette ONG opaque qui prétend refuser les financements provenant de gouvernements, mais dont il a été prouvé qu'elle reçoit régulièrement des millions de dollars du Qatar notamment. Ceci explique sans doute pourquoi, lorsque vous vous rendez sur la page de leur site internet consacré à cet émirat du Golfe, HWR vante les progrès déployés par les autorités qataries pour promouvoir le statut social des travailleurs étrangers qui sont très nombreux dans cet émirat, dont pourtant de très nombreux rapports internationaux attestent qu'ils sont soumis à des conditions relevant de l'esclavage moderne. D'ailleurs, en février 2021, le journal britannique The Guardian publiait une enquête révélant que 6500 migrants, des Indiens, des Pakistanais, des Sri Lankais, des Bangladais, des Népalais, serait mort en construisant les infrastructures destinées à accueillir la Coupe du Monde de football qui s'était tenue, vous vous en souvenez, à Doha l'été 2022. C'est donc cette organisation internationale innocente et dépourvue de toute mauvaise intention qui nous accuse. De quoi ? Du crime d'extermination, rien de moins. Mais de quoi s'agit-il en fait ? Le crime d'extermination figure dans la liste des infractions qui constitue la définition générique de ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité, dont on se souvient, et ce n'est pas un détail dans mon propos ce matin, Ilana, que cette notion juridique est née en 1945, lorsqu'elle a été mentionnée pour la première fois dans la charte de Nuremberg, rédigée lors des procès contre les dignitaires nazis. Cette notion a évolué. Les textes internationaux ont inclus, et détaillé les actions qui pourraient constituer cette infraction majeure du droit international humanitaire, que sont les crimes contre l'humanité. Alors, la liste est un peu longue, j'en cite quelques-uns, l'esclavage, la déportation, le transfert forcé de population, l'emprisonnement et la torture de masse, les violences sexuelles et la persécution de tout groupe identifiable, les disparitions forcées de personnes ou encore le crime d'apartheid.
Et donc, parler donc du crime d'extermination n'est pas un hasard, Daniel ?
Eh bien oui, Lana, cette formulation n'est évidemment pas fortuite. Couplée, comme on l'a vu, à celle de génocide, elle permet de marquer les esprits et d'enfoncer un peu plus le clou de la réappropriation du martyr juif par le narratif pro-palestinien. Ce n'est pas un détail sémantique. Il s'agit bel et bien ici d'une opération superbement orchestrée qui vise d'une part à victimiser à outrance la partie palestinienne, mais d'autre part à renforcer le statut de bourreau de la partie israélienne qui est maintenant identifiée et identifiable de manière à la fois consciente et inconsciente, j'ai presque envie de dire pavlovienne, avec les pires régimes sanguinaires et tortionnaires de l'histoire récente. Vous l'avez compris, il s'agit bien de comparer Israël à l'Allemagne nazie. Toute la panoplie du vocabulaire de cette période est désormais ouvertement et couramment de mise pour parler du conflit en cours. Quelques exemples, Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Les soldats de Tzal se conduisent comme des nazis. Israël commet un génocide contre les Palestiniens. Et voilà, pour que les choses soient claires, nous sommes coupables du crime d'extermination. Extermination, un terme terrible, uniquement utilisé dans l'histoire récente pour parler de la Shoah. Des accusations autant outrancières que totalement infondées. Mais qui s'en soucie vraiment ? L'objectif de cette manipulation des esprits est pourtant simple. Il relève de ce processus de déculpabilisation de l'Occident et de l'Europe en particulier, coupable de 20 siècles de haine, de harcèlement, de persécution à l'encontre du peuple juif jusqu'à la nuit sans fond de la Shoah. Si les juifs sont aujourd'hui les bourreaux, peut-être même pire que ceux qui les ont suppliciés hier, alors peut-être que l'Occident et l'Europe ne seraient donc pas si coupables. Voilà, nous sommes témoins de la pire des perversions des esprits à laquelle se livrent sans complexe les médias, les ONG et les politiques de tous bords.
Merci beaucoup Daniel Saada, je vous dis à très bientôt sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Tout de suite, Raïm Nissenbaum pour sa chronique de Aleph Atta, Vladmour Azaken, biographie de Rabbi Schneur Zalman de Liadi. Bonjour Raïm.
Bonjour à tous. Ce livre, comme son titre l'indique, est une biographie, celle de Rabbi Schneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de ce que deviendra le mouvement Lubavitch, et surnommé l'Admour Azaken, le vieux rabbi, pour dire qu'il fut le plus ancien. Alors, c'est un livre impressionnant, parce qu'il nous retrace dans ses détails toute la vie du rabbi, de Lubavitch, le premier rabbi, au XIXe siècle, puisqu'il vit le jour en 1745, donc fin du XVIIIe, et quitte à ce monde en 1812. C'est une époque un peu charnière, aussi bien d'un point de vue historique général que du point de vue du peuple juif. Et le Rabbi Schneur Zalman a ceci de particulier que son œuvre recouvre tous les aspects de la pensée juive, aussi bien la mystique juive que la philosophie, la psychologie, le droit. C'est véritablement une expression, l'expression d'un intellect qui tient du génie. Alors, cette biographie est très détaillée. Elle nous donne beaucoup d'aspects très intéressants de son enfance, de ses années de formation, jusqu'à ses épreuves, bien sûr. Ses épreuves, puisque Rabbi Schneur Zalman en connut beaucoup, on sait qu'il dut affronter l'opposition de nombreux rabbins de son temps, mais également que, suite à des dénonciations diverses, il fut même emprisonné par le tsar. Mais ces épreuves auraient pu briser plus d'un, bien entendu, mais Rabbi Schneur Zalman les surmonta tous, et il fut véritablement couronné par un triomphe absolument incontestable. Aujourd'hui, il est bien sûr vu comme un grand maître du peuple juif, un dirigeant qui a littéralement révolutionné la vie de chacun. Cette biographie nous donne de nombreux faits qui sont peu connus, même encore aujourd'hui, et c'est pour cela qu'elle est très attachante et très importante. Elle n'a pas été écrite par n'importe qui, elle a été écrite par Nissan Mindel. Nissan Mindel est un homme aujourd'hui décédé, il l'a quitté en 1999. Il a écrit de nombreux ouvrages, il a étudié dans les yeshivot européennes, avant-guerre, puis il y a reçu d'ailleurs son diplôme rabbinique, mais il a étudié également le droit, les sciences politiques en Angleterre, à Manchester, et ensuite passé un doctorat en langue sémitique à l'université de Columbia, donc à New York. Il a été un des cadres du mouvement Lubavitch et notamment de sa branche éducative, et il a participé au comité de rédaction des éditions Keot, qui sont d'ailleurs celles qui ont présidé à l'édition de cette biographie. C'est un auteur important et érudit, ce qui donne d'autant plus de prix à la biographie qui vient de reparaître aujourd'hui. C'est un livre qui éclaire tout un pan du judaïsme, et pour cela, il est possible de le recommander à chacun. Rabbi Schnorr Zalman de Liadi, une biographie de Nissan Mindel, parue aux éditions Keot et disponible dans toutes les librairies juives. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Chaim, et je vous dis à demain.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
7h15, l'information avec Eva Soto, l'essentiel de l'actualité. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, donc des tirs de roquettes cette nuit à minuit même depuis la bande de Gaza contre Israël. Deux projectiles, un a été intercepté, l'autre est tombé dans une zone inhabitée. L'armée israélienne et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas, celui qui avait dirigé l'infiltration dans le kibboutz de Nir Oz lors des attaques du 7 octobre. L'élimination du commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice, ont réagi les responsables du kibboutz. Une pause de 7 jours dans les combats pour faire la liste des otages, toujours 100 à Gaza, c'est ce que propose le Hamas. Le groupe terroriste affirme qu'il n'est pas en mesure de produire la liste des otages encore vivants. De son côté, le président élu Donald Trump réitère son ultimatum au Hamas pour qu'il libère les otages qu'il détient à Gaza. C'est ce qu'il a fait lors d'un gala du Nouvel An cette nuit. Benjamin Netanyahou de retour à l'hôpital à Hadassah, il a quitté sa chambre hier contre l'avis des médecins après son opération de la prostate pour voter un texte concernant le budget de l'État adopté par 59 voix contre 58. Itamar Ben-Gvir n'a pas voulu voter pour. Ce matin, les appels à la démission du ministre de la Sécurité nationale se multiplient en Israël. Antisémitisme, un homme armé arrêté pour avoir planifié d'attaquer un bureau de l'AIPAC en Floride. L'AIPAC, c'est le principal lobby américain pro-israélien qui remercie d'ailleurs le FBI pour avoir déjoué cet attentat. Nous prenons ces menaces très au sérieux et nous ne nous découragerons pas dans notre mission visant à renforcer les relations avec Israël. C'est ce qu'ont déclaré les responsables de l'AIPAC.
Merci beaucoup Eva, on vous retrouve tout à l'heure sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Ne bougez pas les amis, dans quelques instants, le bilan 2024 de l'antisémitisme en France, notamment depuis le 7 octobre 2023. On va faire le point avec vous, Eva. Une petite information. En cette nouvelle année, ce 1er janvier 2025, l'autorité de la population, de l'immigration et des frontières du ministère de l'Intérieur en Israël a publié cette semaine sa liste annuelle des prénoms les plus populaires dans le pays. Alors côté, parce qu'évidemment il y a les musulmans et il y a les juifs, côté juif, en fille, on retrouve Avigaël en premier. Vous aimez bien ce prénom ?
C'est un peu long.
Un peu long, un peu ancien aussi, ouais. Avigaël. Myriam en deuxième position. Tamar également, troisième position. Sarah, Yaël, Lia, Ayala, Libby, Ella et Noah. Noah, le prénom hébraïque de ma fille. Magnifique prénom. Voilà, je ne suis pas du tout objective. Et puis après, pour les garçons, on a pour les juifs, Ariel, David, Lavi, Raphaël, assez classique hein, finalement. Les prénoms Ori, Eitan, Daniel, Elia et Yehuda. Alors chez les musulmans, au total on sait hein, 181 000 bébés sont nés en Israël, juifs et musulmans confondus. Chez les musulmans c'est Mohamed qui arrive en première position, suivi de Youssef et Adam, qui peut se retrouver aussi chez les juifs et chez les musulmans. Voilà pour les informations, excellente année.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le Grand Journal, 14h-15h. Et c'est seulement sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Christophe Barbier. Tous les jours, je suis Jacques Offenbach au Théâtre de Poche Montparnasse pour Offenbach et les Trois Empereurs avec Pauline Courtin et Vadim Cher. Nous sommes le 7 juin 1867. Trois empereurs viennent dîner au Café Anglais et Offenbach doit leur improviser un spectacle. Mais qui sont-ils, ces empereurs? Venez le découvrir au Théâtre de Poche tous les jours à 19h, le dimanche à 15h. Offenbach et les Trois Empereurs.
Radio G, le 6-9, l'NFR Radio.
Le 7 octobre 2023 restera gravé dans l'histoire moderne d'Israël et dans l'histoire du monde comme l'une des attaques les plus meurtrières jamais perpétrées contre l'État hébreu, les pires massacres antisémites depuis la Shoah. Ce jour-là, à l'aube, des milliers de citoyens israéliens ont été brutalement frappés par une offensive massive lancée par le Hamas, une attaque islamiste, une attaque terroriste préparée minutieusement et qui a révélé l'impasse dans laquelle se trouvait aujourd'hui Israël face aux Arabes palestiniens. En une seule journée, ce 7 octobre 2023, le Hamas a massacré 1400 Israéliens et kidnappé plus de 200 personnes. Et depuis, cette guerre multifront pour Israël désormais s'est intensifiée. 14 mois de guerre au cours de laquelle plus de 825 soldats de Tsahal ont été tués, 100 otages toujours en captivité. Et malheureusement, les répercussions de ce conflit ne se sont pas limitées au Moyen-Orient. Eva, en France, une augmentation significative des actes antisémites a été observée. C'est donc l'occasion de dresser le bilan ce matin de ce qui s'est passé pour les Juifs de France en 2024 et 20.
Depuis le 7 octobre 2023, les actes antisémites ont complètement explosé à Paris et en petite couronne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis. C'est ce qu'a en effet confirmé le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès, le 14 novembre dernier chez nos confrères de France Info. Les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Bas-Rhin sont également très concernées. La ville de Nice est enfin particulièrement exposée depuis l'attaque du Hamas avec fin novembre 2024, 38 faits antisémites recensés contre 2 seulement les mois précédents. Au total, sur les 10 premiers mois de l'année, plus de 500 actes antisémites ont été répertoriés contre une centaine sur ceux de 2022. Cela comporte des injures, des provocations, des tags, mais aussi des violences physiques.
Et on va justement en parler, les faits anti-juifs en France qui sont au plus haut niveau et qui ont bondi de 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023. Ainsi, les événements tragiques qui ont frappé Israël le 7 octobre ont, hélas, servi de catalyseur pour une haine grandissante, alimentée par des discours extrémistes et des acteurs étrangers qui ont encouragé aussi cette violence. Dans ce contexte, nous ferons donc ce matin la liste des actes perpétrés cette année contre les Juifs. Il faut dire que nos recherches ont été assez longues parce qu'il y a eu énormément d'incidents. Faut-il le rappeler pourtant, Eva, que les Juifs représentent seulement 0,7% de la population française, selon une enquête détaillée de l'Institute for Jewish Policy Research menée en 2020.
Nécessaire effectivement, Ilana, de rappeler ces chiffres et d'ajouter qu'en 2023, selon les données du ministère de l'Intérieur, environ 48% des actes racistes enregistrés en France visaient des Juifs, alors qu'ils constituent une toute petite minorité démographique. La montée de l'antisémitisme ne se limite pas aux événements isolés, mais constitue un phénomène qui touche plusieurs aspects de la vie des citoyens juifs en France.
Mais oui, d'abord un antisémitisme qui, dès le 7 octobre 2023, s'est exprimé par des slogans qu'on a pu entendre dans certaines manifestations prétendument pro-palestiniennes, des actes de vandalisme comme des croix gammées ou encore des inscriptions « mort aux juifs » qui ont aussi été retrouvées sur des bâtiments.
Et des actes de vandalisme, il y en a eu beaucoup. À Paris, le 10 octobre 2023, des croix gammées et des inscriptions « mort aux juifs » découvertes sur les murs d'un immeuble du 11e arrondissement. À Lyon, 15 octobre 2023, le centre communautaire juif vandalisé avec des graffitis antisémites incluant des étoiles de David Barré et des slogans haineux. Marseille, le 20 octobre 2023, plusieurs commerces tenus par des juifs sont marqués de tags antisémites, des croix gammées et des insultes. Strasbourg, un homme de 62 ans est condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir inscrit des tags antisémites tels que « mort aux juifs » et « USA Israël égale nazi » sur des rames de tramway et du mobilier urbain entre le 13 octobre et le 14 novembre 2023.
Et une liste non exhaustive à Toulouse en octobre 2023, également ville encore marquée par la tuerie antisémite de l'école Ozara Torah il y a 12 ans. Plus d'une vingtaine de tags hostiles à Israël ont été découverts ces derniers mois et rapidement effacés par les services municipaux. Israël assassin ou encore vive la résistance palestinienne ont été principalement observés aux alentours de l'université Jean Jaurès et dans divers quartiers de la ville.
La liste des villes de France touchées par des tags est longue. Nantes, Montpellier, Grenoble, Nice, Paris. En mai dernier, par ailleurs, 35 pochoirs représentant des mains rouges peintes dans la nuit sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris ont été découverts. Un symbole aussi utilisé par les étudiants de Sciences Po il y a quelques mois, arborant keffiyeh, visage masqué circulant, mains en l'air, peintes en rouge. Des mains rouges aussi revisitées lors des Oscars en mars dernier, Billie Eilish, Mark Ruffalo ou encore Swan Harlow arboraient en effet un pin's main rouge sur leur tenue.
Et pourtant, comment l'ignorer ces mains rouges qui sont depuis plus de 20 ans le symbole morbide d'une scène de lynchage remontant au 12 octobre 2000 à Ramallah?
En effet, le lynchage de deux réservistes israéliens entrés par erreur en territoire palestinien, un des terroristes s'était alors affiché fièrement à la fenêtre du commissariat où s'était produit le double meurtre, les mains pleines de sang, les mains rouges, un appel au meurtre tout simplement. En mai, concernant celles qui ont été peintes au mémorial de la Shoah, les enquêteurs avaient privilégié l'hypothèse d'une opération de déstabilisation venue de la Russie.
Alors on parlait par ailleurs de Sciences Po, des actes antisémites qui ont été recensés au sein du milieu universitaire ces derniers mois, des étudiants anti-israéliens qui ont d'ailleurs été suspendus après une manifestation où des slogans pro-Hamas et appelant au boycott d'Israël ont été proférés, ce qui a créé des blocages et suscité l'inquiétude pendant plusieurs semaines des étudiants juifs, mais aussi de certains professeurs qui ont alerté la direction.
À l'INALCO également, récemment, des étudiants juifs ont été harcelés et agressés, suscitant la réaction de l'école qui a dû publier un communiqué pour condamner ces actes de violence. Et en 2024, la haine anti-juive n'a cessé d'exploser.
Avec l'agression d'un sexagénaire à la sortie d'une synagogue à Paris, c'était le 1er mars 2024, un homme de 62 ans portant une kippa. Il a été agressé à la sortie de la synagogue de la rue des Orteaux dans le 20e arrondissement de Paris, frappé et insulté par un homme qui a pris la fuite.
Trois mois plus tard, le 15 juin dernier, une fillette de 12 ans à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, est frappée et elle est violée sous les cris de sales juives et des menaces de mort par trois garçons mineurs. Ils ont entre 12 et 13 ans et depuis ont été mis en examen. Un mois auparavant, on est donc le 17 mai dernier, un homme est abattu par la police en pleine rue après avoir tenté d'incendier la synagogue de Rouen et brandi un couteau face aux policiers. Il s'agit d'un Algérien en situation irrégulière qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Quelques semaines plus tard, le 24 août dernier, un autre homme, aussi franco-algérien, a été arrêté après avoir mis le feu à la synagogue Bat Yaakov Atlan de la Grande Motte, drapeau palestinien noué autour de la taille. Selon le ministère de l'Intérieur, son objectif était tout simplement de tuer les juifs qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment.
D'autres incidents signalés. Un homme qui a arboré un maillot où il est écrit anti-juif au dos dans le métro, condamné le 12 décembre dernier à 6 mois de prison avec sursis. Par ailleurs, toujours dans le métro, après des chants antisémites, une vidéo diffusée sur TikTok. 5 mineurs se disant fiers d'être nazis. Ces 5 mineurs ont été reconnus coupables en mai dernier par le tribunal pour enfants de Bobigny pour injure publique et pour apologie de crimes contre l'humanité pour l'un d'entre eux.
Sur la scène politique, enfin, important d'en parler aussi. Alors si les autorités, si le gouvernement ont mis en place des mesures de sécurité accrues pour protéger la communauté juive, le groupe d'opposition LFI a multiplié les saillies anti-israéliennes, frôlant souvent avec l'antisémitisme. David Guiraud, député LFI, a ainsi comparé les juifs à des dragons célestes, on le sait, un dog whistle antisémite, connotation stéréotypée, déshumanisante. Dans un autre registre, la députée Mathilde Panot avait, elle, affirmé, je cite, « Il ne faut pas réduire le combat pour la Palestine à un combat contre les juifs, mais on ne peut pas laisser les crimes d'Israël sans réponse. »
Thomas Porte a de son côté appelé à exclure la délégation israélienne, pas la bienvenue, selon ses mots, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sans parler des déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui s'était joint à un appel pour l'intifada dans une manifestation à Paris. Rima Hassan, Daniel Obono, Marie Mesmer, Émeric Caron, tous ont tenu des propos gravement problématiques concernant les Juifs ces derniers mois.
Tout à fait. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, qui avait exhorté les étudiants à mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible à partir du 8 octobre 2024, donc un an après les massacres du Hamas en Israël. Rima Hassan, vous l'avez cité, hein, Eva, qui a multiplié les provocations et les déclarations très ambiguës sur les réseaux sociaux, qui continue de le faire et qui fait l'objet de plaintes pour apologie du terrorisme. Tous ont suscité l'ire au sein de la communauté juive de France. Mais peut-être une note d'espoir pour terminer ce papier face à ces épreuves. Un regain d'engagement associatif et militant s'est manifesté au sein de la communauté juive, témoignant d'une volonté de résister, de lutter contre l'antisémitisme. On en a reçu beaucoup des associations ces derniers mois qui justement ont voulu aider aussi à leur manière Israël, ou aider en tout cas à se faire entendre. Le collectif Nous Vivrons notamment, qui mène un combat exceptionnel depuis plusieurs mois. D'autres, en revanche, ont choisi de quitter la France et de faire l'Alia depuis le 7 octobre 2023. Environ 35 000 juifs ont rejoint Israël, selon les chiffres publiés en cette fin d'année 2024 par l'Agence juive. À noter qu'on en parlera d'ailleurs demain avec Igal Palmor.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité. Ce mercredi 1er janvier 2025, premier jour de l'année 2025, mais il y a toujours 100 otages dans la bande de Gaza. Notre vœu qu'ils soient libérés très bientôt.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et en Israël, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, les quotidiens israéliens reviennent tous ce matin sur la crise politique que la coalition de Benjamin Netanyahou a réussi à surmonter de justesse.
Oui, avec Yuval Karmi qui revient sur le vote à la Knesset autour de la loi des bénéfices bloqués, une loi concernant le budget 2025 qui a été remportée de justesse par la coalition de Benjamin Netanyahou, 59 voix contre 58. Et le Premier ministre a dû quitter son lit d'hôpital pour voter. Après une opération accompagnée de son médecin personnel, il est donc arrivé à la Knesset et les tensions internes se confirment puisque aucun député d'Otzma et Yudit n'est accepté de s'absenter pour équilibrer son absence. Et puis, autre moment marquant de la journée d'hier, la présence du député Boaz Bismuth en deuil de sa mère qui est venue voter malgré la période de Shiva. Ce vote, ajoute le journaliste du Yedioth Ahronot, n'est qu'un prélude au défi encore plus épineux qu'attend le gouvernement, la loi sur le service militaire pour les étudiants.
Benjamin Netanyahou pourrait punir par ailleurs Itamar Ben-Gvir après son comportement hier à la Knesset.
Oui, selon le Israel Hayom, le Premier ministre Benjamin Netanyahou envisagerait d'exclure Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, des forums de sécurité. Ben-Gvir réclamait depuis déjà des mois une place au sein du cabinet restreint, dissous après le départ de Benny Gantz et Gadi Eisenkot. Et bien que convié à certaines discussions, son comportement divise, dit-on, dans l'entourage de Benjamin Netanyahou. Et après le vote, Benjamin Netanyahou a critiqué Ben-Gvir, appelant la coalition à surmonter ses différences sans compromettre la stabilité du gouvernement de droite, dans ce qu'il décrit comme un moment crucial pour Israël.
Économie, à présent, avec l'entrée de la nouvelle année, les Israéliens doivent faire face à une série de hausses dans différents secteurs.
Oui, tout à fait, avec le quotidien Maariv qui alerte sur une série de hausses des prix qui attendent les ménages israéliens dès janvier 2025, dès maintenant en fait, puisque la TVA est passée cette nuit de 17% à 18%, impactant donc les dépenses courantes, le carburant et l'immobilier. Les services publics ne sont pas épargnés, les tarifs de l'électricité augmentent de 3,8%, ceux de l'eau de 2%, la taxe foncière, la Arnona de 5,3%, les transports publics subiront également une hausse avec un ticket qui passera de 6 à 8 shekels dès le mois d'avril. Et ces changements pèseront lourdement donc sur les budgets familiaux. Et selon le quotidien Maariv, une famille moyenne avec deux enfants verra ses dépenses annuelles grimper de 4 644 shekels à 5 076 shekels par mois pour une famille nombreuse.
Le Shin Bet, service de sécurité intérieure israélien, a dévoilé par ailleurs son bilan pour 2024, une année marquée par des tensions sur plusieurs fronts.
Oui, les médias israéliens analysent en détail ce rapport qui a été publié hier et qui dresse un bilan impressionnant des activités de sécurité du Shin Bet en 2024. Le Shin Bet a déjoué plus de 1000 attentats en Judée-Samarie et à Jérusalem, incluant des fusillades, des attentats suicides, des attaques à l'explosif et des tentatives d'enlèvement. Des opérations conjointes avec Tsahal ont aussi visé des zones sensibles comme Jenin et Nablus. Et puis à Gaza, les interrogatoires de 650 détenus ont permis de neutraliser des centaines de cibles terroristes. Et puis en Israël, 20 cellules terroristes arabes et 13 cas d'espionnage au profit de l'Iran ont été démantelés, marquant une hausse de 400% de cas d'espionnage pour la République islamique. Le rapport souligne aussi l'élimination de 25 hauts responsables terroristes au Liban et des opérations réussies pour libérer les otages vivants. Une année donc marquante et intense pour la sécurité israélienne.
Et puis on en parlait, Olivier, la population israélienne a dépassé le seuil des 10 millions de personnes, une information qui est reprise ce matin par l'ensemble des médias israéliens.
Et dans un article publié aussi par le Maariv ce matin, le Bureau central des statistiques annonce donc que la population israélienne a dépassé les 10 millions d'habitants en 2024. Toutefois, le taux de croissance a ralenti à 1,1% contre 1,6% l'année précédente. Et puis la principale cause, c'est un solde migratoire négatif. Près de 82 700 Israéliens ont quitté le pays, tandis que seulement 23 800 sont revenus, laissant un déficit de 59 000 personnes. Par ailleurs, le nombre d'immigrants a chuté en 2024 à 32 800 contre 47 800 en 2023. Et puis le rapport mentionne aussi 181 000 naissances contre 51 400 décès, dont 1870 liés à la guerre après les attaques du 7 octobre.
90% des Israéliens estiment qu'il faut limiter le pouvoir des réseaux sociaux.
Et c'est la chaîne 12 qui a publié hier un récent sondage qui révèle que 90% des Israéliens estiment nécessaire de limiter le pouvoir des réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter et Telegram. Les principales préoccupations concernent l'utilisation de ces plateformes pour diffuser de l'antisémitisme, des fausses informations et des contenus inappropriés. 66% estiment aussi que les réseaux sociaux accentuent les divisions au sein de la société israélienne et 58% jugent qu'ils devraient être soumis à l'impôt en Israël. Depuis les événements du 7 octobre, 39% des Israéliens ont une perception plutôt négative de cette plateforme.
Et puis enfin, pour terminer, on l'évoquait un petit peu plus tôt dans la matinée, on connaît la liste, Olivier, des prénoms les plus populaires de l'année 2024 en Israël.
Et l'Israël Hayom nous révèle que l'autorité de la population a publié les prénoms les plus donnés en Israël en 2024. Chez les filles, c'est Abigail qui reste en tête. Et des nouveau-nés, donc, suivi de Myriam. Ella entre dans le top 10, tandis que Maya en sort. Et puis chez les garçons, c'est Mohamed qui reste le plus populaire, mais en légère baisse. Dans le secteur juif, Ariel prend la première place avec 1013 naissances. Et Jonathan sort du classement, remplacé par Elia.
Merci beaucoup Olivier Granilic, merci pour ces informations. On vous retrouve chaque matin à 7h et 7h30. Je vous souhaite une bonne année 2025 et Chag Sameach.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme et les blessés de guerre sont la priorité du Keren Hayesod. Ensemble, aidons-les à se reconstruire.
Keren-ayesod.fr. Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
C'est la fin de la fête de Hanouka. Dès ce soir, allumage de la 8e et ultime bougie et un allumage public prévu à Paris, place de l'Opéra dans le 9e arrondissement à partir de 18h. La liste des allumages publics en banlieue également à retrouver sur le site lubavitch.fr. Et puis, cette nuit, c'était le réveillon et vous le savez, chaque année, il y a des violences lors du réveillon, des voitures qui ont été incendiées, notamment près de Lyon. Un fourgon de police en feu également signalé à Paris. dans le 20e arrondissement. Et puis un jeune homme qui a été blessé à la Kalachnikov apparemment à Avignon. On a vu sur les réseaux sociaux notamment ces images dans le quartier des Ternes, dans le 17e arrondissement, cette nuit, le feu, un incendie, hein, visiblement des voitures en flammes dans le quartier des Ternes à proximité de l'Arc de Triomphe. À Lyon également, des voitures qui ont été incendiées, à Rieulieu-la-Pape notamment, et puis des violences ont éclaté à Bruxelles, des policiers qui ont été visés par des cocktails Molotov, donc ce n'est pas calme du tout. À noter que cette nuit aussi, Bruno Retailleau a annoncé la saisie de plus de 320 kilos de mortiers d'artifice par le commissariat de police d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. On continuera à suivre ces développements.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Marcela Yacoub, juriste, chercheuse et essayiste franco-argentine. Mais sans plus tarder, eh bien, c'est l'humour avec Ethan Lalouze. Il est avec nous. Bonjour Ethan.
Bonjour Ilana, comment ça va?
Ça va, bonne année.
Bonne année, bonne année tout le monde, bonne année à nos auditeurs, bonne année à la régie, bonne année au bureau. On dirait que j'ai pas de chronique, je vais dire que bonne année tout le truc. Bonne année, bonne Saint-Sylvestre. Bonne Sainte-Basile. Vous avez fait quelque chose hier soir, vous et Ilana?
Non. Et vous?
Non, pas trop. Ouais, moi, ça se voit. Enfin, je sais pas si ça s'entend. Mais c'est sûr que ça se voit à la caméra juste ici là. J'ai mes yeux au niveau. Il y en a un, il est encore à Bastille, en train de faire la révolution là. Mais hier soir, j'étais en soirée, ouais. Et ça m'a rappelé à quel point je détestais les soirées du Nouvel An.
Ouais,
parce que chaque année, tu finis par faire des trucs que tu veux pas faire. C'est fou, genre chaque année, c'est la même histoire. Au début du mois de décembre, tu te dis cette année, je vais m'organiser, je vais pas me faire avoir, je sais ce que je vais faire le 31, ça va pas être comme l'année dernière, ni l'année d'avant. Cut, on est le 31, il est 18h, t'es sur ton canapé et tu sais toujours pas quoi faire. Alors là, tu commences le sauvetage de la noyade, tu commences à envoyer des messages boués à tes potes en urgence, ça n'a plus aucun sens. Ça dit quoi ce soir, frérot? Traduction, sauve-moi s'il te plaît, je dois m'auto-persuader que tout va bien dans ma vie. T'as évidemment très peu de réponses et puis dans cette brume de doute, t'as toujours ces propositions de dernière minute et c'est pour cette raison exactement que je déteste le 31, c'est que c'est jamais des bons plans. Écoutez, si vous écoutez chez vous, c'est à cette date-là, c'est jamais des bons plans. T'as toujours ce pote, il est là, il te propose une soirée à 1h30 de Paris, c'est à la campagne, pour y aller tu dois prendre l'avion, il y a des escales, le temps d'arriver là-bas, t'atterris en 2026, quand t'arrives t'as raté le décompte, les gens coulent et en plus tout le monde se casse. Tu le prends très personnellement et t'as raison. Au final, ton nouvel an, tu l'auras passé dans le métro, RERD, avec le fou de la rame, en tête à tête. Moi, je dirais même, c'était un dîner aux chandelles. T'auras pas vu les feux d'artifice, non, mais dans ses yeux, t'auras vu des explosions qui avaient l'air bien plus intéressantes, vraiment. Alors, pour pas vivre ça, tu te dis, bon, je vais voir s'il n'y a pas d'autre option. Et puis, tu te rappelles qu'il y a ce pote qui t'avait dit qu'il faisait une soirée pour le 31. Alors, tu lui envoies un message. Ouais, t'organises toujours quelque chose le 31 et tout. Il dit, ouais, frérot, faut absolument que tu viennes, ça va être trop bien, il y a grave du monde, on va se régaler. Tu lui dis, écoute, je suis trop chaud, à ce soir frérot. Il dit, bah trop bien, trop content que tu sois là, ça fait longtemps, c'est pas vu en plus et tout, et là normalement tout va bien se passer. Sauf que quelques minutes plus tard, il fait le faux pas, il te dit, ah j'ai oublié de te dire au fait, si tu peux, ramène des meufs, s'il te plaît. Ramène quoi? Mais il a cru, je suis qui, moi? J'ai des meufs à disposition. Moi, j'ai des meufs, je les ramène en soirée, par-ci, par... C'est mes meufs de soirée, je les ramène qu'en soirée. Moi, la seule meuf que je vais te ramener ce soir, frérot, c'est ma petite nièce, parce que j'étais censé faire du babysitting avec elle, et on va tous la garder ici maintenant. Et ce soir, on fête pas le nouvel an. Non. Ce soir, c'est soirée Peppa Pig avec elle. Donc vraiment, ramène des meufs. Faut qu'on arrête avec ça, nous les garçons. Je te jure, c'est quand même fou. Nous les mecs, s'il n'y a pas de meuf, il n'y a pas de soirée. Alors que dis-toi, les filles aujourd'hui, elles font des soirées girls only, tellement elles veulent nous éviter. Je trouve que le rapport entre nous et elles, il est dingue. Nous, on veut des femmes alors qu'elles nous veulent en aucune circonstance. En vrai, on dirait les Français avec le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement, il est là... Elle est en train de danser, dit « ça dit quoi ce soir ? Tu veux qu'on rentre ensemble après ?» Et les Français, ils sont en mode « mais casse-toi avant qu'on porte plainte !» Oh, c'est la justice aussi, non merde. Je te jure, prochaine fois, on fait une soirée Girls Only. Et je pense que c'est un truc sur lequel on doit évoluer cette année, nous les hommes, c'est notre rapport à l'autre. Et en l'occurrence, notre rapport aux femmes. Tu vois, je parle des hommes parce que c'est la seule chose que je connais. Et c'est pour ça, non mais c'est vrai, c'est pour ça que je voulais en parler dans cette première chronique de l'année. Parce que c'est vraiment hyper important. Ouais, non, parce que il y a une croyance chez nous les hommes qui fait qu'on pense que plus on va avoir de conquêtes féminines, plus on va pouvoir s'affirmer en tant qu'homme. Et spoiler, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Il y a mille façons d'être un homme. Il faut trouver la vôtre. Venez, on essaye d'être des hommes différents pour une fois. Venez, on essaye d'être des hommes d'une autre façon que celle-ci. Venez, on essaye d'être des hommes en étant bon avec notre cœur, en étant bon avec les autres, sans rien attendre en retour. Venez, on essaye d'être les hommes qu'on aurait dû être depuis le début. Et si je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que hier, je suis allé à la soirée de mon pote. Et j'ai ramené des meufs, voilà. Bref, vous l'aurez compris, cette année, comme tout le monde, je ne tiendrai pas mes résolutions, mais ça, on en reparlera dans la chronique de demain. Merci de m'avoir écouté.
Eh bien, merci beaucoup, merci Ethan. Très beau message pour cette nouvelle année 2025. Et bravo, Razakou Barour, comme on dit, pour ce message. Après Rabi Lalouz, comme la dernière fois. Merci beaucoup Ethan, je vous dis à très bientôt sur Radio J.
Merci à toi, Ilana.
Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Marcela Yacoub.
Les grands débats commencent sur Radio J.
Marcela Yacoub, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes chercheuse et vous venez de publier aux éditions Anne Carrière un livre extrêmement dense, extrêmement argumenté qui s'appelle « Comment la gauche radicale va sauver le monde ?» Point de suspension. Des juifs, et ça décrit, plus que ça décrit, ça démontre la dérive radicale vers l'antisionisme et l'antisémitisme de la gauche radicale. La gauche d'aujourd'hui, la gauche aussi d'hier, et on va y revenir. Mais je commence par un fait fondamental que vous annoncez, page 115. La gauche radicale, dites-vous, remplace la question sociale par la question raciale. C'est là le nœud du problème ?
Probablement. Je crois que c'est peut-être le nœud du problème d'un point de vue de l'hégémonie culturelle de la gauche radicale. Moi, dans ce livre, j'ai montré plus ou moins, enfin, j'ai essayé de montrer comment l'antisémitisme était au cœur de la gauche radicale aujourd'hui et que c'était pas simplement une affaire électoraliste. En fait, ça c'est un de mes buts principaux, de montrer ça en fait, parce qu'on dit que la gauche radicale elle a cette attitude par rapport à la question de musulmans, etc. Parce qu'elle est électoraliste.
Mais oui, moi non, c'est ce que je pensais. Justement, chercher le vote des banlieues.
C'est pour ça.
C'est plus que ça.
C'est ça que justement, c'est contre ça que j'ai voulu protester. Pourquoi ? Parce que je pense que l'antisémitisme est au cœur de la nouvelle gauche. C'est le point nodal, en fait. Pourquoi ? Parce que la question raciale est devenue une question. La question raciale est devenue. Elle est devenue, disons, elle a remplacé la question sociale. Pourquoi ? Parce que pour cette gauche radicale, il y a les minorités racialisées, notamment les Noirs, les Arabes, enfin toutes les minorités, le sexe colonisé. Et qui sont les véritables opprimés de la terre.
Ce ne sont pas des prolétaires, vous dites, c'est le lumpen prolétariat. Quelle différence ? Le lumpen prolétariat, c'est une foule facile à agiter ?
Là, c'est pas, tous les racialisés ne sont pas les lumpen prolétariat. Moi, je dis, il y a, disons que dans la manière de s'exprimer de certains démagogues d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas simplement Mélenchon, mais il y a aussi beaucoup des gens des médias des gauches, des services publics. Enfin bon, je veux pas donner des noms parce que je veux pas avoir des procès, ni que vous non plus. Disons que à un moment donné, effectivement, le juif comme étant d'une certaine façon la victime, peut-être c'est pas le bon mot, de ce que l'homme peut faire à l'homme. En fait, à un moment donné, c'est vrai que même la manière dont on avait conçu le King Kong contre l'humanité, les juifs étaient d'une certaine façon les symboles de l'humain, d'une certaine façon.
Et la gauche a sorti le juif de ce statut.
Exact. Pour eux, les juifs n'est plus une minorité persécutée, mais c'est plus qu'un blanc, c'est les supra-blancs C'est comme, c'est pire que les blancs suprémacistes. Et aux États-Unis, en fait, même ici, on prétend que c'est les juifs qui déterminent les politiques impérialistes américaines, y compris les politiques de Ku Klux Klan et compagnie. Enfin.
C'est-à-dire qu'il y aurait en Israël une sorte de tête de réseau comme un complot mondial.
Exact. C'est-à-dire que l'antisionisme est parti de cette l'idée selon laquelle c'est une idée qui vient des nazis déjà, que les juifs ne peuvent pas avoir un État comme les autres parce que ce sont un complot international et l'État d'Israël ne serait que la tête de cette hydre en fait. Voilà, mais disons que c'est vrai qu'on a déployé un peu peut-être trop d'idées, mais moi c'est que je voulais insister sur cette idée selon laquelle les juifs ne sont plus minorité persécutée, et c'est une idée malheureusement très répandue parmi tous les jeunes, enfin tout ce qu'on appelle les nouvelles antiracistes.
Vous citez un sondage d'ailleurs, hein, pour les plus de 75 ans, 76% voient les juifs comme cible de violence régulière, alors chez les moins de 35 ans, c'est 27%.
Ouais, on est en train à cause de cette théorie à ce nouvel antiracisme. Je dis le nouvel antiracisme qu'à mon sens est apparu au début des années 2000 à peu près. Il faut dire qu'auparavant, moi je me rappelle même quand je suis venue en France il y a une trentaine d'années, il y avait cette idée selon laquelle on est tous des minoritaires, les Noirs, les Juifs, les Arabes, etc. On est tous d'une certaine façon des mal-aimés par la droite extrême, par les nationaux, les gens qui,
enfin bon, et par, le danger est là, voilà, et le danger est là. Et ça a changé, ça c'est fini.
Je pense que la droite extrême est toujours en danger, mais je veux dire que ce qui était considéré comme des persécutés, même si on était très différents les uns des autres, on était ensemble par cette idée qu'on est tous victimes de la persécution des gens intolérants, des nationalistes, etc. Tandis que maintenant, dans ces nouvelles antiracismes, on a sorti les juifs de cette idée de l'idée des minoritaires, ils sont considérés pire encore que les blancs suprémacistes, en fait.
Alors ça remonte encore plus loin, parce que vous décrivez comment l'Union soviétique, au moment du procès Eichmann, en profite pour relancer l'antisionisme et l'antisémitisme.
Même avant, c'était à partir des années 50. Je dis que Staline, même si, à un moment donné, dans un premier temps, pour des raisons géopolitiques, a reconnu l'État d'Israël, avant même que les États-Unis, etc., et que les Israéliens ont voulu les ménager parce qu'ils voulaient que les Juifs israéliens
puissent venir,
etc.
Mais un complot des blouses blanches.
Exact. À partir des 48, des 47-48, la situation interne a rendu impossible. Et c'est vrai que Staline a eu tout un discours antisémite qui seul lui pouvait tenir, parce que c'était lui le vainqueur de l'hitlérisme, en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a repris tout l'argumentaire hitlérien, en disant, moi je ne peux pas être antisémite parce que c'est moi qui ai vaincu Hitler. Et en même temps, toute la politique internationale qu'on voit aujourd'hui à l'ONU, du tiers-monde, etc., l'idée que les Juifs, que l'État d'Israël serait colonialiste, raciste, apartheid, etc., ce sont finalement des idées soviétiques qu'on peut reprendre mot à mot aujourd'hui. Enfin, c'est assez impressionnant.
Vous parlez aussi de l'extrême gauche allemande qui, dans les années 67-77, a développé un antisémitisme pour un peu blanchir la mémoire des Allemands. Il y avait une nouvelle raison de détester les Juifs. On pouvait être antisémite sans être nazi.
Oui, ça c'était, je pense, c'est à travers cette gauche-là que l'antisémitisme est passé de l'Union soviétique à l'Occident. Il ne faut pas oublier que c'est par ces biais-là, par les biais des terrorismes rouges, disons, de
la bande à Bader, etc.
Exact. C'est par ces biais-là qui sont devenus célèbres en Occident. Et chez eux, je pense que je cite les pamphlets qui sont vraiment qu'ils mériteraient plutôt un psychanalyste que l'étude d'un psychanalyste qu'un politologue, parce que il y a comme une sorte de culpabilité intolérable qu'ils laissent passer. C'est-à-dire que en gros, ils disent, pour pouvoir surmonter la culpabilité d'avoir tué 6 millions de Juifs, il faut continuer de les tuer. D'une certaine façon, c'est ça les messages.
C'est un paradoxe, mais ouais. c'est leur idéologie. Et puis est arrivé le 7 octobre. Alors, est-ce que c'est un génocide le 7 octobre, le début d'un génocide, la promesse d'un génocide?
C'est que je pense que c'est pas un pogrom, d'un point de vue des définitions des qu'on peut donner à la fois en histoire et en droit international. Moi, je pense que c'est ni un pogrom, ni un génocide. C'est la promesse d'un génocide, c'est que j'essaye de montrer dans les livres, en fait. On a, parce qu'il manque, par rapport à la définition des droits internationaux, il manque les nombres. Il faut un nombre, c'est-à-dire que les 1250 ou,
victimes, c'est,
des voilà. victimes ne sont pas nombre suffisant pour qu'on puisse penser à la constitution d'un génocide.
Mais l'idée du Hamas, c'est de dire ce qu'on fait en petit, entre guillemets, exact, là, on va le faire en grand pour exact. Tout Israël et éradiquer Israël.
C'est une promesse des génocides, c'est comme ça que je l'ai pensé.
Alors, vous dites qu'en France, on poursuit des leaders syndicaux, politiques, intellectuels pour apologie du terrorisme et que ça n'est pas suffisant. Pourquoi?
Parce que moi, je pense que d'une part, c'est on peut pas traiter les hommes politiques les groupements politiques comme étant des citoyens lambda. Moi je pense que dans les groupements politiques on devrait mettre en question les groupements politiques lui-même d'une certaine façon, voir si ces groupements est conforme à la démocratie. Ça on peut effectivement faire un examen, est-ce que ces partis politiques est conforme à l'ordre démocratique, est-ce qu'il peut vraiment jouer comme parti politique. Mais d'autre part, c'est que ces idées-là sont répandues dans l'ensemble de ce qu'on peut appeler la société savante française, c'est-à-dire l'université, les médias, les services publics, disons que
c'est culturel, c'est profond, c'est pas simplement.
C'est, en fait, vous savez, moi-même, je peux témoigner de l'intolérance. Par exemple, le problème, c'est qu'on ne peut même pas dire, je peux même pas donner des exemples personnels, parce que même par exemple par rapport au on ne peut pas discuter du féminisme, par exemple, non plus, parce que c'est parti. Les problèmes de cette espèce de gauche radicale, c'est qu'elle a constitué une sorte d'univers culturel nouveau, dans lequel la nouvelle antiracisme, on en a parlé, et le féminisme sont devenus les deux pieds principaux, les deux points d'appui principaux, et qui connaissent une énorme prestige, en fait. C'est carrément du prestige. Mettre en cause le féminisme radical aujourd'hui, c'est être un salaud, un tueur des femmes, un misogyne, alors que ce sont ces mêmes femmes qui n'ont en fait, qui ont félicité qu'on viole les femmes israéliennes, en fait. Moi, je pense que c'était très intéressant de voir à quel point le féminisme radical aujourd'hui est idéologique, à voir la réaction quand il y a un baiser volé. Là, Nicolas Bezos a été condamné pour un baiser volé.
Là, elle se mobilise, mais pour le 7 octobre, elle se mobilise.
Et alors que une femme, les mêmes personnes qui protestent, par exemple, pour l'affaire Nicolas Bezos, en fait, moi, c'est juste que voilà, c'est un exemple récent. Et des femmes qui sont violées et mutilées, etc., elles disent qu'elles ont plus ou moins le bien mérité. Enfin, on ne peut pas croire que ces gens-là veuillent défendre les femmes. Alors, vous voyez, c'est un féminisme qui est idéologique et qui ne cherche pas à défendre les femmes. De la même façon que l'antiracisme, c'est pas... on ne cherche pas à protéger les minorités, comme on le prétend, contre la discrimination. On cherche à faire une sorte de révolution, en fait, des révolutions antidémocratiques dans nos sociétés qui s'attaquent à la fois à l'égalité et à la liberté.
Que serait un pays, que serait un monde dominé par cette gauche radicale, dominé politiquement avec la gauche radicale qui prendrait le pouvoir, Mélenchon président, par exemple?
Et ça serait, peut-être ça ressemblerait, peut-être pas vraiment au stalinisme, parce qu'on serait dans d'autres circonstances, mais on créerait, moi je pense qu'on créerait une sorte de... dictatures du prolétariat, mais qui ne s'appelait pas les prolétariats, dictatures d'irracialiser, en fait. Le programme est déjà posé, je m'invente rien. Hein. Je dis ce qu'il dit la gauche radicale américaine, première chose, contre l'égalité, c'est-à-dire que les groupes racialisés devraient avoir des droits différents que les autres, c'est-à-dire avoir des prébendes, non pas comme on disait à un moment donné, des privilèges permanents, parce que la haine qu'on leur voue, disent-ils, est permanente. Alors, il faut toujours qu'ils aient des prébendes et des privilèges par rapport aux autres, en fait. Et il faut que les libertés publiques essentielles, comme la liberté d'expression, par exemple, soient annihilées, parce qu'ils considèrent que la liberté d'expression, c'est une manière de dominer les minorités racialisées. Alors, du coup, ce serait un monde, une dictature, en fait, dans laquelle certains parlerait au nom des autres.
Eh bien, votre liberté d'expression, pour l'instant, vous l'utilisez bien. Comment la gauche radicale va sauver le monde des Juifs, c'est chez Anne Carrière. C'est un texte très fort. Marcela Yacoub, merci, bonne journée.
Merci, Christophe.
Radio J. Retrouvez le Barbier du Matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J. Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J.